Charlie & Co.
Charlie and Co. Charlie & Co.
Bonjour à tous. Comme chaque semaine sur Fadjet, Charlie & Co vous emmène en balade dans les rues de Nancy à la rencontre de ceux qui les animent. Et cette semaine, on marche avec Bernard de la Villardière, puis avec Raphaël Vuitton à la découverte du street art à Nancy. Comme d'habitude, on démarre notre périple du 47 rue Charles III, des studios de Fadjet. Vous n'avez plus qu'à nous suivre, c'est parti. Et direction tout d'abord la Fnac de Nancy, on remonte la rue Charles III, on prend à droite rue Saint-Dizier, on récupère la place du marché puis la rue Saint-Jean, et nous voici place Maginot à la Fnac où on retrouve Bernard de la Villardière qui sort tout juste d'une rencontre publique autour de son livre « L'homme qui marche » aux éditions Calman Lévy. Attention, interview exclusive.
Bernard de la Villardière, je suis en ce moment à la Fnac à Nancy. Je m'apprête à prendre le train pour rentrer à Paris après une rencontre avec quelques téléspectateurs d'Enquête Exclusive qui se sont gentiment intéressés à un livre qui s'appelle L'homme qui marche, que j'ai publié chez Calman Lévy il y a quelques mois et dans lequel je raconte un peu ce qui m'a construit, enfant, adolescent, ce qui a fait que je fais ce métier aujourd'hui et que à presque 60 ans, dans quelques mois, je continue de le parcourir avec beaucoup d'appétit, d'envie, de curiosité à la fois du monde et de tous ceux qui le façonnent jour après jour.
Alors vous sortez de la Fnac, une rencontre avec le public, on se dirige vers la gare comme vous le disiez, en marchant, on est assez raccord.
Les cloches sonnent et il se trouve que mon livre commence par une abbaye dans laquelle je me suis retiré pour écrire ce livre. Je raconte un peu mes aventures spirituelles, mais pas seulement dans ce livre bien évidemment.
Beaucoup de coïncidences aujourd'hui, cette interview en marchant, les cloches qui nous accueillent à la gare. Mm-hmm. C'était prédestiné cette interview.
Oui, sans doute, oui. Vous avez beaucoup de chance, vous savez que c'est la première qualité d'un journaliste.
Effectivement. Comment ça s'est passé cette rencontre avec les Nancéens?
C'était sympa, moi j'aime bien. En fait, c'est à travers ce livre, je vais à la rencontre des téléspectateurs d'Enquête Exclusive, ce qui ne m'est pas souvent offert dans mon métier de journaliste de télévision. Et donc ce livre est un bon moyen à la fois de leur expliquer la télévision, les coulisses d'Enquête Exclusive. Le principe d'Enquête Exclusive, ce sont les coulisses des destinations, de thématiques, de sociétés à travers le monde. Donc quoi de plus normal que moi-même, je me prête à cet exercice de raconter les coulisses d'Enquête Exclusive et de celui qui présente cette émission aujourd'hui.
Et vous allez à la rencontre de tout le monde dans le monde entier, c'est bien d'aller à la rencontre des Français également.
Oui, bien sûr, mais je le fais. Il y a une émission sur 3 ou sur 4 qui est en France. Et d'ailleurs, cet été, on a pas mal de choses, de thèmes qui sont des thèmes en France. Et puis, il y a une nouvelle émission sur M6 qui s'appelle Dossier Tabou, que je présente en prime time, dans laquelle on explique, on décrypte des thématiques de société qui sont tout à fait dans l'actualité. Le premier thème, ça a été sur l'organisation de l'islam en France. Le deuxième, c'était sur la légalisation du cannabis. Faut-il ou pas légaliser le cannabis? Et la troisième à venir, c'est aussi sur une grande thématique de société dont je ne peux pas vous dévoiler tout de suite le contenu, mais vous le saurez en août puisque ce sera un des thèmes de la rentrée.
Alors concernant votre livre, on l'a évoqué assez rapidement, qu'est-ce qu'on y retrouve?
Ce qui a fait que j'ai eu cette vocation de journaliste, c'est-à-dire que je raconte mon enfance au Liban, il se trouve que j'ai eu la chance, grâce à ce métier, de retourner dans des pays dans lesquels j'ai vécu enfant, à plusieurs années d'intervalle, donc voir les transformations. Donc c'est une double rencontre, celle d'un pays qui a évolué et celle d'un homme qui a évolué et qui est passé du stade de l'enfance ou de l'adolescence à celle de l'adulte. Et c'est ainsi que je raconte dans ce livre mes différents voyages au Liban. Mon enfance au Liban, ce qui a fait que j'ai voulu devenir journaliste, et ensuite mes aventures en tant que journaliste au Liban.
Alors, L'homme qui marche, c'est le titre de votre livre. Qu'est-ce qui vous fait marcher?
Certains disent qu'est-ce qui me fait courir, parce que je cours en fait beaucoup plus que je ne marche. Ce qui me fait marcher, c'est la curiosité, c'est l'appétit de la découverte, de la connaissance. Il y avait un slogan d'Arte il y a quelques années qui s'appelait « Soyons curieux ». Et j'avais affiché le poster dans la chambre de mes enfants en leur disant « c'est la première consigne dans la vie ». c'est éveiller la curiosité. C'est la curiosité qui donne l'appétit de vivre aussi. Et l'appétit pour les autres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence. Dès que je vois quelqu'un, c'est vrai que c'est même d'ailleurs stupide, si la personne que je rencontre est d'emblée différente de moi, ça m'intéresse plus encore. Voilà.
La curiosité, une des premières qualités du journaliste.
Oui, tout à fait, avec la chance.
Alors, on en parle un peu moins, mais vous êtes assez engagé associativement aussi, vous portez pas mal de causes.
J'ai été président d'une ONG qui s'appelle Solidarité Internationale, parce que j'ai été tiers-mondiste, comme on disait autrefois. C'est-à-dire que je ne supporte pas l'inégalité entre les pays riches et les pays pauvres. Et je sais que dans ce domaine, on ne fait pas assez. À la fois les États et les citoyens que nous sommes ne font pas assez. On parle beaucoup de migration aujourd'hui, de l'arrivée des migrants. Mais la meilleure manière d'arrêter cette immigration, c'est de faire en sorte que les gens puissent rester chez eux. Parce que d'ailleurs, ils sont beaucoup plus heureux chez eux que chez nous. Quelle que soit notre volonté de les accueillir et la manière dont on les accueille. Donc je regrette notamment que l'aide publique au développement aujourd'hui soit une portion congrue du pays de l'intérieur brut, notamment en France. Donc il y a un devoir de solidarité qu'on n'exerce pas et on en paye le prix fort, hélas.
Alors faire des reportages un peu partout dans le monde, aller à la rencontre de plein de publics différents qui rencontrent des difficultés, qui sont parfois dans la misère, c'est aussi un engagement, c'est montrer au grand public un peu ce qui se passe ailleurs, c'est une autre façon de porter des causes.
Oui, c'est d'essayer de faire vivre cet idéal de fraternité humaine qui m'a été sans doute transmis par mes parents, par ma culture, pour partie religieuse, même si je ne suis pas pratiquant ni croyant. L'idéal de fraternité humaine, qui dans les années 70-80 semblait devoir se propager à travers le monde, comme les sauterelles. Hélas, on en est loin aujourd'hui, puisque le monde est travaillé par les divisions, l'obscurantisme, mais aussi la montée des mafias, ce dont je rencontre à travers cette émission. Mais c'est vrai qu'on dit souvent qu'Enquête Exclusive ne regarde que les côtés négatifs des choses. C'est pas forcément vrai, puisque dans toutes ces régions qui souffrent de la guerre, de l'injustice, j'essaie de mettre en valeur des gens qui tentent de réparer au quotidien ces distorsions et ces injustices.
Est-ce qu'il y a un endroit où vous, vous aimeriez faire un reportage et c'est impossible pour le moment, n'ayant pas encore réussi ?
La Corée du Nord, notamment. La Corée du Nord, oui. La Corée du Nord, mais aussi il y a beaucoup d'autres régions. Il y a la Turquie, où je pense que c'est de plus en plus difficile pour les journalistes de travailler. J'aimerais travailler en Turquie, faire un reportage sur la Turquie. Et là, aujourd'hui, quand on envoie une équipe, on prend le risque qu'elle termine en prison. Donc c'est un peu ennuyeux. Je constate au fil des années que finalement le monde se ferme, notamment aux journalistes. Et je trouve ça très inquiétant.
C'est important aussi de montrer l'évolution dans ces pays, des pays où la presse était plus libre il y a quelques années, pouvoir y retourner pour montrer justement que les choses ont changé.
Absolument. Et malheureusement, c'est de plus en plus difficile. Mais on se bat pour tenter d'ouvrir ces portes qui se ferment. Ça a été le cas récemment à Cuba. Ça a été le cas au Tibet, ça a été le cas dans beaucoup de pays et c'est une des petites fiertés de toute l'équipe qui conduit ce magazine avec moi.
Est-ce que vous auriez, pour conclure, un message ? On parlait de fraternité, de solidarité, de découverte, quel qu'il soit. Est-ce que vous auriez un message à passer aux auditeurs ?
Je pense qu'il est, c'est le moment de tous s'engager. Je crois qu'il faut qu'on ait tous une cause, un engagement, qu'il soit humanitaire, qu'il soit humaniste, qu'il soit pour la liberté de la presse, pour la fraternité. Je pense qu'il faut absolument qu'à côté de nos professions, si nos professions ne nous amènent pas à cela, il faut qu'on s'engage et qu'on prenne la parole. À la fois pour tendre la main, pour aller vers les autres, mais aussi pour dénoncer les idéologies qui tentent d'exclure, qui véhiculent des idées qui sont tout sauf généreuses.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous rappelle toutes les infos pratiques en fin d'émission. Charlinko continue sur Fadjet et dans un instant, on poursuit notre balade dans Nancy, mais cette fois-ci à la découverte des œuvres street art qui s'offrent à nos yeux. Mais ce sera dans quelques minutes, après un peu de musique. A tout de suite. I had a stupor.
the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way.
Charlinko de retour sur Fadjet, et après avoir récupéré la rue Saint-Jean puis la rue des Ponts, nous voici place Charles III où commence notre balade artistique.
Raphaël Vuitton, conseiller municipal délégué à la culture et à l'art dans la ville, à Nancy.
Alors, il se passe toute l'année pas mal de choses au niveau culturel à Nancy, et plus particulièrement en été.
Oui, tout à fait. On a une programmation très riche en été, comme dans la plupart des villes, au niveau culturel et en termes d'animation également sportive et tournée vers les jeunes. Et au niveau artistique, nous avons notamment, parce que nous nous trouvons devant une programmation sur le mur, avec Pablito Zago qui nous a fait une magnifique création très colorée pour inaugurer la troisième saison du Mur Nancy qui, tous les mois, permet de découvrir des artistes de street art dans des configurations, des matières extrêmement variées, des gens qui sont soit du cru, qui sont plutôt des locaux, soit avec une dimension plus nationale ou internationale. On alterne tous les mois des créations sur ce lieu où nous nous trouvons, devant le Mur Nancy.
Donc là, effectivement, nous sommes place Charles III, à côté du centre commercial, et c'est sur une des façades du centre commercial qu'on a ce fameux mur où on peut découvrir des street artistes. Le street art, justement, ça fait partie des choses qui se sont développées à Nancy. Hein.
Oui, tout à fait. Depuis 2014, nous avons essayé de développer notre politique d'art dans la ville. Et le street art est une des dimensions d'art dans la ville, avec cet aspect artistique qui s'est vraiment développé dans le milieu urbain, de manière parfois un peu clandestine, mais qui, depuis un certain nombre d'années, vient à la surface et devient possède une dimension artistique à part entière, et qu'on essaye de mettre en valeur, de faire découvrir, que les gens puissent appréhender cette discipline, ces artistes, ces créations, de manière plus, disons, normalisée.
beaucoup plus simple d'accès, c'est en plein air, donc c'est une façon aussi de sensibiliser les gens à l'art. Parfois, on a du mal à rentrer dans un musée, sur un lieu d'expo, il suffit de s'arrêter au gré d'une balade, d'un shopping.
C'est exactement la démarche que nous souhaitons développer dans le cadre de notre politique d'art dans la ville. C'est permettre aux gens qui vivent la ville, qui sont au quotidien dans ce milieu urbain, de pouvoir faire face, découvrir des œuvres d'art dans leur vie quotidienne, vraiment de manière extrêmement simple. Les gens n'ont pas toujours le réflexe de pousser la porte d'une galerie d'art, n'ont pas toujours le réflexe d'aller voir une exposition dans un musée. Il y a parfois même une forme de peur au niveau culturel de ne pas être au niveau. Et là, le fait de placer des œuvres dans la ville, ça permet vraiment à tout un chacun de pouvoir les découvrir, de se les approprier parfois même. Et voilà, et ça permet par ailleurs, et là c'est la cerise sur le gâteau, de rendre notre quotidien peut-être un peu plus beau, ou en tout cas un peu plus intéressant, dans un cadre urbain qui est parfois un peu gris.
Ça égaye pas mal la ville.
Exactement, oui, là, devant ce mur qui va donc rester tout l'été, on a énormément de couleurs roses, vertes, bleues, extrêmement flashy. Ça permet aussi d'égayer, au-delà de la création de cet artiste qui nous vient d'Avignon, qui est également très intéressante.
La magie de Nancy aussi, c'est qu'en levant le nez, en levant la tête, on découvre plein de choses, aussi bien de l'art urbain que de l'architecture plus ancienne. L'art nouveau notamment est très présent. C'est un des conseils qu'on peut donner à tous les gens, tous les Nancéens, les touristes également, c'est lever le nez, il se passe plein de choses aussi, regardez les façades.
Exactement, lever le nez de votre portable, c'est assez dangereux d'ailleurs en marchant, mais voilà, essayez de découvrir la ville autrement, en essayant d'explorer, sortir un peu des sentiers battus, des parcours habituels. On a plein d'endroits extrêmement riches dans la ville de Nancy. Certains sont plus ou moins connus, on peut aller faire notamment des petites balades du côté d'Alstom ou derrière Alstom, sur l'ancienne voie ferrée. On a un nombre impressionnant de fresques avec des graffeurs qui sont là, qui s'expriment régulièrement, les unes recouvrent les autres. Il y a des règles qui sont respectées par l'ensemble des intervenants, les règles de la discipline. Et il y a plein de petites choses à voir, à découvrir au coin d'une rue, un petit collage de mosaïque, un petit collage papier, un graphe qui peut être intéressant.
C'est assez concentré au centre-ville, c'est-à-dire que si on vient se balader, on peut voir pas mal de choses, donc du côté du centre commercial, rue des Ponts, un peu plus haut aussi, rue Léopold-Lallemand,
ouais. Où nous avons une fresque qui a été créée par David Walker, qui représente un portrait de femme, extrêmement coloré. Ça a changé complètement la physionomie de ce lieu, même de cette rue. Voilà, et ça a été la première intervention que nous avons souhaité mettre en œuvre après 2014, lorsque nous avons redéfini et intensifié notre politique d'art dans la ville. Là, on arrive sur le quartier Gare, on a des œuvres également là. Et on peut en une heure et demie, faire un tour assez complet d'un ensemble d'œuvres significatives. Mais il ne faudrait pas penser que la politique d'art urbain et que les installations que la ville essaye de mettre en place dans l'espace urbain se limitent à ces œuvres-là. Il y en aura et il y en a partout.
Elles ne sont pas réservées au centre-ville.
Voilà, exactement.
Alors après, ce qui est intéressant aussi dans l'art urbain, comme dans tous les courants artistiques, c'est que chaque œuvre est différente, les techniques sont différentes, les émotions exprimées sont différentes aussi en fonction des artistes.
Oui, tout à fait. Là, on va arriver donc devant la fresque de David Walker, où c'est un portraitiste. Il représente énormément de portraits de femmes. Son travail est très particulier. Enfin, c'est une vraie signature. Voilà, c'est un travail sur des extrêmement grands formats à la bombe, à base de passage de plusieurs couches de peinture diverses qui, au final, permettent un rendu magnifique d'œuvres extrêmement colorées et de portraits particuliers. Mais on a un ensemble d'autres techniques qui permettent aussi de donner également des émotions. On peut travailler au pochoir, on est à la bombe, mais là, directement sur un pochoir. On peut avoir également les collages. On avait fait un collage sur la halle à côté de l'autre canal, sur un ensemble de collages par monsieur et madame qui sont des artistes de Nancy. Ça avait un caractère très particulier, très, très bon enfant, très sympathique. Voilà, ce sont des techniques différentes, des pratiques différentes, mais qui au final sont toutes là au service de l'art dans la ville.
Est-ce qu'il y a d'autres projets de fresques aussi, aussi importantes dans Nancy bientôt ?
Oui, nous avons des projets de fresques, plusieurs qui sont en cours. Faire une intervention sur l'école Saint-Pierre, maintenant renommée Galet, qui est en train d'être restructurée. Et on a un autre projet qui va être inauguré très prochainement, un projet de collage qui sera réalisé un peu partout dans la ville. L'idée, c'est de faire sortir les œuvres du musée Lorrain dans la ville. C'est un artiste, Julien de Casabianca, qui a réalisé des photos d'œuvres qui sont dans les réserves du musée Lorrain ou qui sont dans les collections du musée Lorrain de manière générale, des photos des parties d'œuvres ou d'œuvres dans leur totalité, et qu'il va coller dans différents lieux de la ville. On pourra découvrir tout ça le 30 juin, il y en aura un peu partout, on les découvrira assez facilement, il y en aura sur les écoles, sur le musée Lorrain, sur divers bâtiments publics. Il y aura un vrai parcours tout au sein de la ville avec des œuvres du musée Lorrain.
Reproduction des œuvres du musée Lorrain avec l'art de rue, c'est aussi créer un lien entre les générations artistiques.
Exactement, exactement. Et faire découvrir, un peu dans la démarche dont on a parlé, faire découvrir aux gens des œuvres qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. C'est l'artiste qui a lui-même sélectionné les œuvres. Bien entendu, il y aura les incontournables chefs-d'œuvre conservés par le musée Lorrain, mais il y en aura d'autres. Des œuvres qui l'ont interpellé, qui l'ont touché, auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Moi, j'ai déjà vu en avant-première les œuvres qu'il avait sélectionnées et j'ai été étonné pour certaines d'entre elles qu'il puisse les sélectionner. Mais c'est son choix, c'est justement l'affect, le sentiment qu'il a pu avoir en découvrant ses œuvres et qu'il a souhaité transmettre en procédant à des collages de ses œuvres ou de ses morceaux d'œuvres dans la rue et essayer, j'espère, d'en faire profiter l'ensemble des Nancéiens et l'ensemble des personnes qui vont visiter Nancy.
Alors, autre point stratégique street art, c'est la rue des Ponts, pas très loin.
On va s'y rendre donc pour découvrir le street painting qui a été réalisé par le duo d'artistes Lang Bowman en 2015.
Donc là, on arrive rue des Ponts, où je pense que beaucoup de Nancéens ou même de non-Nancéens qui nous écoutent ont vu et se sont peut-être posé la question, tiens, pourquoi il y a des bandes de couleurs sur cette rue ? C'était quoi les objectifs de ce projet ?
L'objectif du projet de street painting et d'installation du street painting dans la rue des Ponts et dans une partie de la rue de la Visitation, c'était de faire en sorte que les habitants de la ville et les commerçants également puissent se réapproprier cette rue qui était assez impersonnelle car elle n'avait pas subi une finition, disons, classique de rue piétonne, mais un simple revêtement d'asphalte qui recouvre la rue. Et donc l'idée, c'était de faire une intervention artistique qui permette aux gens de se rendre compte que cette rue était piétonne et de se la réapproprier, de pouvoir s'y balader de manière plus sympathique qu'une simple rue avec un trottoir. Voilà. Et je pense que ça a vraiment égayé, au-delà de l'aspect artistique, de la dimension de création, ça a vraiment rendu une autre dimension à cette rue que les gens ont donc pu se réapproprier et dans laquelle on y passe de manière moins anonyme, moins vite, qu'on découvre plus.
On le disait, il y a pas mal de choses ici, notamment au niveau street art, au niveau du centre-ville. Mais pas que. Si on passe la place Stanislas, le muséum, il se passe aussi des choses. Il y a un très beau jardin à découvrir et une belle fresque. C'est
oui,
au niveau du jardin Gaudron.
Au niveau du jardin Gaudron, où dans le cadre célébration du rattachement de la Lorraine à la France, nous avons fait appel à un artiste pochoiriste qui est reconnu au niveau mondial, qui s'appelle Jeff Aerosol, et qui nous a fait une magnifique fresque représentant la statue de Stanislas, donc c'est Stanislas Leszinski, et qui a été réalisée l'année dernière dans le cadre de ces célébrations.
On va aller se balader jusque là-bas. Alors, en venant voir cette œuvre de Jeff Aerosol ici, c'est l'occasion de découvrir le parc aussi, le jardin.
Le jardin Gaudron, qui est superbe, un petit jardin magnifiquement mis en valeur par le service des parcs et jardins de la ville de Nancy. Et il faut savoir que ce jardin Gaudron a été commandé par Stanislas lui-même et était le premier jardin botanique de la ville de Nancy.
Donc c'est pas par hasard si la fresque
exactement
se trouve là.
Voilà, tout s'explique également, ça a été choisi également en résonance avec l'histoire. Stanislas est totalement légitime à être ici vu que c'est lui qui a commandé le lieu et qui a voulu créer ce premier jardin botanique.
Donc là on arrive au niveau de l'œuvre, elle est visible également si on passe en voiture au niveau de la porte Sainte-Catherine.
Voilà.
On redécouvre Stanislas, c'est une façon de remettre Stanislas dans le 21e siècle.
Exactement, donc le dialogue entre les pratiques urbaines modernes, le pochoir, et Stanislas d'époque classique. Voilà. Et ce dialogue entre le Stanislas du jardin Gaudron et le Stanislas de la place Stanislas. Un vrai dialogue entre les époques, même on va dire entre les cultures.
Alors ça peut être un bon support également pour les scolaires, pour parler d'histoire en venant ici. Est-ce que vous connaissez ce bonhomme? C'est qui pour vous? Et on part un peu sur son histoire et faire comprendre que c'est le même personnage en statue au cœur de la Place Tannes.
Exactement, même en passant sans but précis, on peut se rendre compte, se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi, qui sait. Mais bien entendu, les scolaires sont invités à venir et ont même visiter l'œuvre pendant sa réalisation. C'est quelque chose d'assez impressionnant, d'assez beau. Ça fait plusieurs mètres de haut. Il y a une grande finesse dans le détail. On peut peut-être s'arrêter sur, par exemple, les croix de Lorraine qui sont sur l'habit de Stanislas. On peut aussi s'interroger. Peut-être que les plus jeunes se poseront la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une flèche rouge au bout du doigt de Stanislas. Et en fait, c'est tout simplement la signature de Jeff Aerosol. C'est sa marque de fabrique, si vous voulez, en tant qu'artiste. Toutes ses œuvres comportent cette flèche rouge, qui a une orientation particulière. Il n'a pas voulu nous dévoiler son secret, de savoir le pourquoi du comment de la présence de cette flèche rouge. C'est un peu sa marque de fabrique, si on peut dire.
On peut aussi se demander ce que montre Stanislas, comme on se le demande au niveau de la statue.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'on a la réponse?
Non, mais là, c'était vu que c'est une reproduction de la statue de la place Tannes à plat, on devait avoir le doigt qui forcément montrait quelque part et il se trouve sur la gauche, donc il montre les rives de Meurthe.
Le petit parc.
Et le petit parc aussi, oui.
On le disait, il y a ce petit parcours au gré de balades. On peut découvrir ses fresques, en passant en plus à travers de beaux jardins, comme le jardin Gaudron ici. Mais il y a plein d'autres choses, des festivités à la Pépinière, le spectacle Place Stanislas qui a repris
exactement.
Également.
On a sur tout l'été un ensemble extrêmement dense d'activités culturelles, sur tout l'été, mais aussi toute l'année. En ce qui concerne plus particulièrement l'art urbain, les parcours que vous pouvez réaliser à Nancy, nous allons éditer pour la deuxième année, une petite brochure avec un plan qui s'appelle ADN, Art dans Nancy, qui est réalisé par un graphiste très très doué qui s'appelle Philippe Tidgat. Même le graphisme de ses publications est en lui-même une création. Avec ces brochures, vous pourrez découvrir l'ensemble des parcours, l'ensemble des œuvres qui sont dans la ville, qui sont indiquées de manière claire et que chacun pourra consulter au gré des balades.
Merci beaucoup.
C'est moi.
Avant de se quitter, on vous rappelle les informations concernant nos invités. Bernard de la Villardière, on ne vous le présente plus, vous pouvez le voir régulièrement sur M6, dans Enquête exclusive ou encore Dossier tabou, mais vous pouvez aussi le lire dans L'Homme qui marche aux éditions Kalman-Lévy et ainsi en découvrir un peu plus sur lui et sur les coulisses de ses nombreux reportages dans le monde entier. L'art à Nancy, c'est beaucoup de street art actuellement. Et on a pu le constater avec Raphaël Vuitton, conseiller municipal délégué à l'art et à la culture dans la ville, notre guide aujourd'hui, du mur Place Charles III jusqu'au gigantesque Stanislas au pochoir près du Muséum Aquarium, en passant par l'impressionnante fresque de David Walker, non loin du caméo Saint-Sébastien, ou encore du côté de la rue des Ponts, habillé en street painting. De quoi égayer le mobilier urbain, mais aussi, pour chacun d'entre nous, d'appréhender cet art de rue au gré d'une balade en ville, en libre accès, totalement gratuitement. D'ailleurs, soyez vigilants, car depuis peu, vous pouvez apercevoir dans les rues de Nancy des reproductions d'œuvres du Musée Lorrain, une création de Julien Casabianca. Et à la rentrée, il vous faudra trouver une statue de taureau rouge réalisée par Gepellini. Un jeu plutôt simple car elle sera apparemment plutôt visible. Enfin, Nancy cet été, c'est aussi bien sûr plein d'animations à la Pépinière et dans d'autres parcs. Le spectacle Son et Lumière Place Stanislas évidemment, mais aussi Nancyphonie ou encore le livre sur la place à la rentrée. Plus d'informations sur nancy.fr, dans le magazine Cannes, CAN comme Culture à Nancy, ou encore à l'office de tourisme Place Stanislas. Voilà Charlie & Co, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans les rues de Nancy. Si vous aussi, vous voulez nous inviter à découvrir votre association ou votre projet sur Nancy, rendez-vous sur la page Charlie & Co sur le www.fadjet.net. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par mail à charlie.ie@fadjet.net, nous contacter au 03 83 37 56 09 ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous avez raté une partie de l'émission ou tout simplement une folle envie de la réécouter, diffusion le vendredi à 18h30, Rediffusion le dimanche à 12h30 et le mardi à 17h30. Et bien sûr, les podcasts disponibles sur le site de la radio avec toutes les coordonnées de nos invités. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de Fadjet, bien sûr. À la semaine prochaine. Ciao.